Quelle énergie dans ce psaume, une énergie douce, tranquille, qui me fait du bien et qui est capable de me remettre en route et qui m'a déjà souvent remis en route. Ça n'a rien à voir avec l'énergie d'une bombe atomique qui, elle, est destructrice. C'est une énergie qui nous reconstruit. Alors vous avez sans doute remarqué que ce psaume est très court. 5 petits versets. Alors, permettez-moi de vous donner un conseil, celui d'apprendre ce psaume par cœur et de le réciter de temps en temps. Alors, quand je dis réciter, j'entends le répéter avec le plus de cœur possible, bien entendu. Et ça, vous pouvez le faire, en tout cas silencieusement, hein, personne ne peut l'entendre, pensez juste à ce psaume. Et si vous verrez, ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous pouvez le faire à peu près partout. Quand vous attendez quelque part, quand vous prenez le bus, voilà, quand vous êtes chez vous, tranquille, personne ne la verra, sauf Dieu. Et vous verrez, ça va vous faire du bien. En tout cas, à moi, ça me fait du bien. Alors, vous allez dire, mais moi, je n'arrive pas à mémoriser un texte. Même 5 petits versets, je ne peux pas. Alors dans ce cas, je transforme un petit peu mon conseil en vous disant, mais vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier. Il est tellement court que vous pouvez l'écrire, je pense, sur un post-it assez grand quand même. Et puis vous le mettez dans un endroit où vous allez le retrouver quelque part, peut-être avec d'autres papiers. Et puis quand vous le retrouvez, eh bien, vous le lisez tranquillement et vous verrez, ça va vous faire du bien. Mais bien entendu, c'est juste un conseil, hein. Vous êtes libre tout à fait de le suivre ou pas. Alors maintenant, je vais faire des commentaires sur les versets 1, 2 et 5 uniquement. J'ai quand même lu les versets 3 et 4, je me suis dit que peut-être ça ferait du bien à quelqu'un. Le verset 1 qui dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre ». En fait, ce psaume m'habite depuis quelques mois. Ce qui m'a surpris, c'est cet appel adressé aux habitants de toute la terre à crier leur joie pour le Seigneur. C'est en effet surprenant, car les psaumes, comme vous le savez, sont dans l'Ancien Testament. Rédigés bien avant la venue de notre Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, il y a le peuple élu, le peuple d'Israël, et les autres peuples qui ne le sont pas. C'est Israël qui a conclu une alliance avec Dieu, ou plutôt d'ailleurs, Dieu qui en a conclu une avec ce peuple. Le principal élément de cette alliance étant les 10 commandements. Les autres peuples étaient a priori exclus de ce plan de salut, mais pas exclus de l'amour de Dieu. Et c'est bien ce que dit l'apôtre Paul. Vous savez, il était juif, il était membre du peuple d'Israël, et aux habitants de la ville d'Éphèse, Éphèse, qui était une ville non en Israël, mais disons composée de Grecs, je pense, il leur dit, alors, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Je lis encore le verset 13, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le salut a été ouvert aux autres peuples après la venue de Jésus. Et nous en sommes tous bénéficiaires. Hein? Merci Seigneur. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Mais avant la venue du Seigneur, les autres peuples étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est dur hein, de lire ça, mais c'est, voilà, c'est ce qui est écrit. Hein? Et ce que je vais vous dire, c'est que, voilà ce qu'a dit l'apôtre Paul, mais en fait, il y a eu des exceptions. Et je voudrais en citer 2 exemples, parmi d'autres. Alors, j'ai pensé d'abord à Rahab. Alors, Rahab, c'était une prostituée qui habitait Jéricho, une ville de Canaan, et le peuple d'Israël avait reçu l'ordre de détruire cette ville. Alors c'est une histoire qui se passe dans les années 1200-1300 avant Jésus-Christ. Elle aurait dû donc périr avec tous les autres habitants de Jéricho. Et pourtant, elle a été sauvée. Hébreux 11, verset 31 dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Vous savez, Israël avait envoyé des espions avant de s'emparer de la ville, et Rahab les avait reçus avec bienveillance. Et du coup, toute la ville a été détruite, sauf Rahab et sa famille. Et vous savez quoi? Eh bien, Rahab figure parmi les ancêtres du Christ. Elle est dans la généalogie du Christ. Une autre exception est Ruth, une femme qui n'est ni d'Israël ni cananéenne, mais moabite. Du peuple, elle faisait partie du peuple de Moab. Alors cette fois, on a affaire à une femme vertueuse. Et cette histoire se passe pas très longtemps après celle de Rahab. Nous lisons... Ruth faisait partie d'un peuple qui était sous une forme de malédiction. Nous lisons en Deutéronome 23, les versets 3 et 4, « L'Ammonite et le Moabite, vous voyez, les gens de Moab, n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et en perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. » Et Ruth avait épousé dans le pays de Moab un Israélite qui était venu là avec ses parents pour fuir une famine. Mais le mari de Ruth est décédé et de même tous les hommes de la famille sont décédés. Et quand sa belle-mère décide de retourner en Israël, eh bien Ruth décide de l'accompagner. Arrivée en Israël, elle trouve un mari avec un enfant qui deviendra le grand-père du roi David. Du coup, malgré l'interdiction du Deutéronome, Ruth figure aussi dans la généalogie du Seigneur. C'est aussi une ancêtre du Christ. Matthieu 1, verset 5, dit « Salmon engendra Boaz de Rahab, voyez, Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth. » Vous voyez, c'est dans un espace de temps assez court. Vous pourrez lire l'histoire de Ruth dans la Bible, un livre lui est dédié, qui est d'ailleurs assez court. J'ai cité ces deux exemples pour que personne ne dise « Je suis un trop grand pécheur, je ne peux pas être sauvé. » Regardez Rahab, la prostituée. Et que personne ne dise « Il y a une malédiction sur ma famille, je ne peux pas être sauvé. » Regardez Ruth. Alors, revenons au psaume 100. Après mon étonnement, je me suis demandé, donc, cet étonnement qui consiste à voir que cet appel de Dieu, ce que tous les peuples le louent, malgré que dans l'Ancien Testament, c'est difficile, quoi. Alors je me suis demandé s'il y avait d'autres psaumes qui allaient dans le même sens et qui invitaient d'autres peuples, tous les peuples à louer le Seigneur. Et c'est là un deuxième étonnement pour moi, parce qu'on trouve plusieurs références. Je vais en citer quelques-unes, mais pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup. On trouve le verset 1, exactement le verset 1 du psaume 100, on le trouve aussi dans le psaume 66, verset 1, et le psaume 98, verset 4. Vous voyez, trois fois dans la Bible, ce verset 1. Et puis, au psaume 33, verset 8, « Que toute la terre... craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. » Psaume 96, verset 1, « Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. » Psaume 47, verset 2, « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Psaume 67, verset 3 et 5, on a lu le psaume 67 tout à l'heure, « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Et le psaume 117, verset 1, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Vous voyez, les psaumes ouvrent une porte assez large aux autres peuples pour louer le Seigneur et finalement avoir part au salut de Dieu. Alors comment expliquer cette contradiction? D'une part, seul Israël a droit au salut, les autres peuples sont sans espérance et sans Dieu. C'était un autre mot qu'ils disent, vraiment. Et d'autre part, ce formidable appel à tous les peuples que l'on trouve dans les psaumes. Alors pour moi, la tendresse de Dieu l'explique très bien. Notre Dieu est bon, nous en reparlerons plus tard, il se laisse attendrir. Et moi je crois aussi que Dieu est un peu pressé d'ouvrir la porte du salut à tous les peuples. Et cela transparaît dans les psaumes. Voilà pour le verset 1, passons au verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez en allégresse en sa présence. Alors j'ai vu dans ce verset une allusion au service de Dieu dans le temple. Voilà, si on peut passer la diapositive. En effet, dans l'Ancien Testament, le temple était constitué de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, ou encore le saint des saints. Alors vous voyez là une représentation de ce temple, ou de même du tabernacle, qui était le temple portatif utilisé par le peuple d'Israël dans son voyage vers la terre promise. Dans le lieu saint, il y avait un chandelier, un autel des parfums et une table pour les pains de proposition. Et le service avait lieu dans cette partie, dans le lieu saint, matin et soir. Il fallait par exemple s'occuper du chandelier, des lampes, il fallait s'occuper des pains, etc. Par contre, dans le lieu très saint, séparé du lieu saint seulement par un voile, il y avait juste l'arche de l'Alliance, qui était un coffre à peu près de cette taille-là, vous voyez, voilà, avec un couvercle, et au-dessus, il y avait des chérubins qui tendaient les ailes, comme ça. Et dans Exode 25, verset 22, Dieu dit à Moïse, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du couvercle du coffre, entre les deux chérubins placés sur l'arche de l'Alliance. » Dans cette partie, vous voyez, il y avait la présence de Dieu. Et le prêtre, il pénétrait une fois par an seulement, pour faire l'expiation des péchés, le jour de Kippour. Voilà, ça c'est le service de Dieu dans le temple. Hein, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec allégresse. Donc c'était réservé aux prêtres uniquement. Pourtant, vous voyez, il y a des rois en Israël qui se disaient serviteurs aussi du Seigneur. Par exemple, le roi David, en 2 Samuel 7, verset 29, « Veuille donc bénir la maison de ton serviteur. » Vous voyez, et Salomon, dans 1 Roi 8, verset 28, « Sois attentif à la prière de ton serviteur. » Vous voyez, David et Salomon se considèrent comme des serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que eux n'avaient pas le droit de pénétrer ni dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. C'était réservé aux prêtres. Moi, je crois que ça voulait dire, pour David et Salomon, qu'ils appliquaient leur cœur à obéir à la loi donnée à Moïse. Et le premier commandement de cette loi était « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » C'était des gens qui chérissaient le Seigneur. Et pour nous, il en est de même. Servir Dieu, ça veut dire, dans tous les domaines de nos vies, nous allons nous efforcer d'être à la hauteur, de lui faire honneur. Le service pour Dieu, qu'est-ce que c'est pour nous? Je ne connais pas bien votre Église, mais j'imagine que l'Église cherche des personnes pour tel ou tel service. Maintenir l'Église propre, par exemple, apporter des fleurs le dimanche matin, s'occuper des enfants, des jeunes, faire des travaux dans l'Église, d'électricité, changer de cloison de place, enfin bref. Est-ce que ce sont là des services pour Dieu? Mais sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais si nous limitons notre service pour Dieu et que nous faisons à ce que nous faisons dans notre Église, je crois que nous passons à côté de l'essentiel. Par exemple, ça sert à quoi de passer des heures et des heures à monter une cloison dans l'Église, par exemple, hein, et de retour à la maison, nous ne supportons pas nos enfants et notre conjoint nous énerve. Ça va pas, ça va pas. Commençons par aimer nos enfants, notre conjoint, car c'est là toute notre vie qui doit être un service pour le Seigneur. Le service du Seigneur, c'est aussi à la maison, quand nous passons l'aspirateur, quand nous faisons la vaisselle ou d'autres besognes domestiques. Le verset 2 du psaume 100 est très intéressant, car il dit deux choses. Il dit « Servez l'Éternel avec joie » et, deuxième chose, « Venir avec allégresse dans sa présence ». Je crois qu'il y a un lien entre les deux. Je crois que c'est bien d'aller d'abord dans la présence de Dieu par la lecture de sa parole, par la prière, et ensuite de faire le service pour le Seigneur. C'est sûr, quand nous nous approchons de Dieu, nous pouvons être tremblants, car il s'agit du Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, un Dieu grand, redoutable. Au psaume 97, verset 9, nous lisons « Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre ». Mais ce qui est écrit dans le psaume 100, ce qu'il veut, c'est que nous nous approchions de lui avec joie. C'est incroyable. Hein? Alors voilà, approchons-nous de Dieu comme nous pouvons, si possible avec joie. Et je crois qu'il nous aide aussi à nous approcher de lui, n'est-ce pas? Hein, c'est nous soutient par sa grâce. Hein? Et puis, allons faire le service que Dieu nous demandait. Le service que Dieu nous demande d'accomplir doit être fait dans la joie. Ah, vous savez, à Montbéliard, on a des actions un petit peu sociales comme ça. On a par exemple une action des dos de voix dans un quartier un peu chaud comme ça. Et les enfants viennent, et puis il y a des bénévoles qui s'occupent d'eux, qui les aident à faire leurs devoirs. Alors je suis aussi un de ces bénévoles. Et j'y vais, donc c'est bien réglé, c'est bien organisé. J'y vais le mardi, puis le jeudi. Alors des fois, je dois me prendre par la main pour y aller, hein, je ne vais pas vous cacher, je vais dire, oh, alléluia, c'est super, j'y vais. C'est pas vrai, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ce qui se passe, c'est que la joie vient pendant le service. Et souvent, je reviens et je me dis, oh, c'était quand même super ces moments passés avec les enfants. Servez l'Éternel avec joie. La joie vient souvent pendant le service. Ouais. Et alors, après, que faire après le service? Eh bien, je crois que c'est bien de revenir devant Dieu et lui dire, le Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. C'est Jésus qui nous enseigne à dire ça dans Luc, chapitre 17, verset 10. Et si nous arrivons à faire ça, alors c'est formidable. Car la joie qui va nous habiter va être pure, non polluée par des pensées d'orgueil ou d'autres moins avouables. Si nous estimons encore être très loin de ce stade, surtout ne dites pas ça, j'y arriverai jamais. Eh bien, écoutez, moi je crois que c'est pas bien grave, mais ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. De dire, ben voilà, je vais essayer quand même de faire ce que je peux. Et je saute maintenant au verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà ce qui donne la raison de la joie, dont il est question au verset 1 et 2. Pourquoi crier de joie pour le Seigneur? Parce qu'il est bon. Pourquoi le servir avec joie? Parce qu'il est bon. Pourquoi entrer dans sa présence avec allégresse? Parce qu'il est bon. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre église, mais dans la nôtre, nous rappelons souvent dans les cultes l'amour de Dieu pour nous. Et je crois que c'est bien de le faire. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu pour nous. Néanmoins, je voudrais aborder maintenant une question que vous vous êtes peut-être déjà posée ou qu'on vous a posée, une question délicate. Et pour n'avoir pas eu de bonne réponse, certains se disent athées. Et cette question est, si Dieu est plein d'amour pour tous les hommes, et nous croyons ça, hein, n'est-ce pas? Oui, nous le croyons, c'est vrai. Alors pourquoi permet-il le mal? Pourquoi est-ce que des enfants de quelques mois meurent d'un cancer? Pourquoi a-t-il permis Auschwitz? Pourquoi permet-il des catastrophes comme celle qui a affecté Mayotte en début d'année? Pourquoi permet-il que des enfants et des femmes meurent sous les bombes à Gaza? Terrible, hein, c'est terrible. Et on peut continuer la liste. Hein, pourquoi mon voisin est méchant avec moi, etc. C'est une longue liste. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas donner de réponse satisfaisante à cette question. À mon avis, cette réponse satisfaisante n'existe pas. Sinon, ça fait longtemps qu'on l'aurait trouvée. Mais, ce que je vais faire, je vais apporter quelques éléments qui pourront peut-être nous aider dans notre cheminement avec Dieu. Parce que c'est une question qui peut être un obstacle, hein, qui peut nous dire, vous savez, tout ce que tu crois là, c'est... Faut arrêter, hein, parce que c'est pas possible, tu ne peux pas être amour et puis permettre un amour tout puissant et permettre tant de mal. Et je vais apporter ces éléments au travers d'un témoignage. Il y a maintenant plus de 2 ans que mon épouse est décédée d'un cancer. Elle avait été traitée pendant 8 ans. Elle a eu droit à de multiples traitements. Et à l'époque, la médecine ne savait pas très bien soigner ce type de cancer, celui qu'elle avait. Alors, bien sûr, nous avons prié, nous avons demandé au Seigneur de la guérir, et puis, rien. Pas de guérison. Pourtant, nous avions conscience de ne pas demander quelque chose d'extraordinaire au Seigneur, juste un petit geste, quelque chose du genre, dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Voyez, mais rien n'est venu. Nous avons fait venir les anciens pour l'onction d'huile, selon l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 14. C'est quelqu'un de malade qu'il appelle les anciens. Alors ils sont venus une fois, deux fois, trois fois. En 8 ans, on a le temps de faire des choses quand même. Hein. Et puis, rien. Pas de guérison. Et je vous assure que nous avions du mal à lire les récits de guérison que nous racontent les évangiles. Jésus a fait tellement de merveilleuses guérisons quand il était sur terre, alors pourquoi Dieu ne faisait-il rien pour nous? Malgré tout, j'ai continué à croire que Dieu nous aimait. En fait, je n'avais pas d'autre choix. Après y avoir cru pendant des dizaines d'années, je n'allais pas tout balancer par-dessus bord. Et maintenant, je me rends compte que le Seigneur nous a soutenus. Il n'a pas accordé la guérison demandée, mais il était là, tout près de nous. Et j'ai compris qu'on ne doit pas croire que Dieu nous aime parce que ça nous fait du bien, mais on doit croire que Dieu nous aime parce que c'est vrai. Et puis, est arrivé le moment de la séparation, quand elle est décédée, et pour moi c'était un vrai tsunami intérieur, une grosse catastrophe. Comment sortir? Comment reprendre le dessus? Je voudrais maintenant évoquer la croix. Il y a dans notre église de la Prairie une évocation de la croix. Ce n'est pas une vraie croix parce qu'elle est un peu en creux dans le mur, vous voyez? Et puis cette croix est vide. Parce que nous croyons que le Seigneur n'est pas resté sur la croix, mais qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant. Et c'est vrai, c'est bien ainsi. Mais avant d'être vide, eh bien, le Seigneur était sur la croix pour accomplir le plan de salut de Dieu. Et les souffrances du Seigneur sur la croix, nous ne devons pas les oublier. Nous les rappelons de temps en temps, en particulier quand nous prenons la Sainte Cène. Et l'apôtre Jean en parle dans son évangile au chapitre 19. J'ai lu, j'ai relu et je relis encore ce chapitre qui parle de la crucifixion et des souffrances de notre Seigneur. Je vais lire avec vous juste le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Par le moment, près de la croix, il y a ces 4 femmes et aussi l'apôtre Jean, hein, qui est témoin de la scène. Un peu plus loin, il y a quelques soldats. Les autres évangiles disent qu'il y a aussi des gens qui sont là et qui se moquent et qui insultent notre Seigneur. Revenons à ces 4 femmes près de la croix. Donc Marie, la mère de Jésus, Marie, la femme de Clopas, et la sœur de sa mère. En consultant les autres évangiles, on peut arriver à la conclusion que la sœur de sa mère, c'est en fait la mère des apôtres Jean et Jacques. Dans ce verset, il y a un croisement de souffrances très intenses. Il y a d'abord la souffrance de notre Seigneur, une souffrance physique, mais aussi une souffrance intérieure. le sentiment d'avoir été abandonné du Père, puisqu'il dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46. Et puis, il y a aussi la souffrance de sa mère. C'est une chose terrible de perdre un enfant. Alors, un enfant comme le Seigneur Jésus, je crois que c'est encore pire, car il était parfait, sans péché. C'était un homme qui faisait du bien. Vous voyez un petit peu le tourbillon de pensée chez Marie, la mère de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une telle mort? Il faisait du bien comme personne au monde. Alors pourquoi cette mort? Et puis il y avait aussi la souffrance des autres femmes. Il y a aussi la souffrance de l'apôtre Jean, bien qu'il n'en parle pas. Donc dans cette scène, il y a un empilement, un croisement de souffrances très fortes. Et les artistes ont bien compris ça. Nous trouvons beaucoup de peintures de cette scène de la crucifixion. Et puis, cette scène de la crucifixion a été mise en musique de nombreuses fois. Ce sont les Stabat Mater, des mots latins qui signifient « la mère se tenait debout », qui reprennent à peu près le début du verset 25 du chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Alors, vous voyez, au milieu de toutes ces souffrances, je me suis bien retrouvé, avec mon chagrin rond comme une maison. Alors, quand on souffre beaucoup, on n'est pas capable de faire autre chose. Eh bien, est-ce que c'est certain? Regardez, lisons les versets 26 et 27 du chapitre 19, toujours, de l'Évangile de Jean. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Donc Jésus est sur la croix, hein, il voit sa mère, l'apôtre Jean, et il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Comment le Seigneur a-t-il réagi en voyant les souffrances de sa mère? Il lui a confié une nouvelle mission, être la mère de l'apôtre Jean. Un peu comme pour lui dire, « Ne reste pas centré sur ta souffrance, sur ton chagrin. Tu as autre chose à faire. Tu vas t'occuper de l'apôtre Jean. » En ce qui me concerne, je n'avais pas besoin d'une autre mission, car je m'occupais à ce moment-là de l'aide aux devoirs, je m'occupais aussi d'une autre action, et c'était bien, parce que ça m'obligeait à penser à autre chose, et ça m'a beaucoup aidé. Je ne veux pas ici manquer de remercier tous ceux d'entre vous qui ont prié pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Et bien sûr, je ne suis pas le seul à avoir perdu son conjoint ou un être cher. Le chemin pour reprendre le dessus, pour surmonter cette épreuve, est chaque fois différent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un chemin. Selon la parole de 1 Corinthiens 10, verset 13, au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Alors, quelle réponse apporter à la question « Si Dieu aime les hommes, pourquoi permet-il le mal, la souffrance ?» Alors j'ai essayé de comparer cette question avec celle que pose Jésus sur la croix. En effet, sur la croix, Jésus, je l'ai déjà dit tout à l'heure, a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une question. Et notre question c'est « Si Dieu nous aime, pourquoi permet-il le mal ?» Je me suis dit, c'est à peu près la même question. Et en y réfléchissant, ben, c'est pas la même question. Dans les deux questions, il y a un pourquoi. Bon, c'est pas très... Dans une question, c'est pas choquant hein, qu'il y ait un pourquoi. Hein. Mais dans la question de Jésus, il n'y a pas de si. Dans la nôtre, il y a un si. Si Dieu nous aime. Et ce si, ben, est là pour nous faire douter. Et alors que Jésus n'a pas douté de l'amour de Dieu. Vous voyez, il ne dit pas si, « Dieu, si tu m'aimes, alors ne m'abandonne pas ». Il ne dit pas ça. Il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, ben, c'est dur quand même, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Mais vous voyez la différence, hein. Si Dieu nous aime, pourquoi permet-il le mal? Pourquoi est-ce qu'il permet que je passe par des chemins difficiles? Mais voilà, ayons confiance en Dieu. Ne doutons jamais de l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime tel que nous sommes, nous l'avons rappelé tout à l'heure aussi, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos fautes. Il nous aime et nous accompagne sur le chemin de la vie, malgré tous nos pourquoi. Rappelons-nous ce verset 5 du psaume 100. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen.